de nous suivre sur Radio Orient. Il est 17h, le journal Inès Gilles. Au sommaire de cette édition, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national de 3 jours après les incendies meurtriers qui ont tué 12 personnes dans le nord de l'Algérie. Une femme a été tuée au Liban dans une frappe israélienne sur le sud du pays. Plusieurs personnes ont également été blessées. Au Népal, les recherches continuent pour retrouver les disparus après la crue survenue à la frontière avec la Chine. Le bilan est d'au moins 360 morts. Bonjour, une partie du nord-est de l'Algérie à feu et à cendres. Au moins 12 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées dans des incendies de forêt. Plusieurs dizaines de personnes ont dû quitter leur domicile face à la progression des feux. François-Xavier de Calonne.
Et oui, Inès, les incendies n'ont pas seulement frappé la France cet été, loin de là. Les pays d'Afrique du Nord en ont aussi été victimes. Et là, en ce moment, eh bien, l'Algérie subit une véritable catastrophe. Les zones résidentielles ne sont pas épargnées. Exemple, dans la wilaya de Djigel, plusieurs familles ont dû fuir leur domicile face à l'avancée des flammes. Des flammes attisées par des vents violents. Il suffit de regarder, par exemple, les images diffusées par Djigel News, un site d'information de la région. Avoir froid dans le dos. On y voit des habitants paniqués. Certains sont réfugiés dans un bureau de poste au milieu d'un nuage de fumée. Des personnes évidemment terrorisées. Alors que les feux se rapprochent d'elles, le bilan humain est très lourd. Vous l'avez souligné, Inès, ce bilan est provisoire. Il y a aussi des victimes dans les wilayas de Béjaïa et Tizi Ouzou, dans la région de la Kabylie. Hier soir, la protection civile avait recensé 159 incendies à travers le pays. De nombreux axes routiers sont interdits. Et la gendarmerie nationale appelle, bien entendu, les automobilistes à la prudence et surtout à ne pas tenter de franchir les routes fermées.
Et chaque été, le nord de l'Algérie est touché par des feux de forêt.
Oui, et pas que. Tous les pays d'Afrique du Nord ont été victimes des feux de forêt cet été. En Algérie, les autorités ont dénombré près de 2000 feux le mois dernier. Cela rappelle, Inès, l'été meurtrier de 2023. Plus de 30 personnes avaient perdu la vie dans la région de Béjaïa. Des feux qui avaient détruit, qui avaient réduit en cendres des milliers d'hectares de forêts et de terres agricoles. Des centaines de maisons avaient aussi été détruites. Des morts, des blessés et des personnes qui se retrouvent sans abri. Voilà les conséquences de ces catastrophes auxquelles il est bien entendu impossible de s'habituer. Un phénomène aggravé par des épisodes de plus en plus fréquents de sécheresse et forte chaleur liés au dérèglement climatique. Même si des pyromanes sont arrêtés, les feux ne prendraient pas cette ampleur sans ce climat rude. La Tunisie et le Maroc ne sont bien sûr pas épargnés. Environ 4400 hectares de surface forestière ont été ravagés par les flammes en Tunisie, entre le 1er mai et le 23 juillet dernier, et au Maroc, 310 incendies ont été recensés depuis le début de l'année. Mais aujourd'hui, en ce moment, c'est donc l'Algérie qui est durement frappée. D'importants moyens terrestres et aériens sont mobilisés. Des pompiers risquent leur vie pour tenter de sauver celle des autres. Et dans ce contexte, vous l'avez dit, Inès, dans votre journal, un deuil national de 3 jours a été décrété par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.
Et les activités culturelles et sportives sont annulées pendant 3 jours. Le championnat professionnel de football, dont le coup d'envoi de la nouvelle saison était initialement prévu ce jeudi, a été reporté. Dans l'actualité, au Moyen-Orient, au Liban, une femme a été tuée aujourd'hui dans une frappe israélienne sur le sud du pays. Plusieurs personnes ont également été blessées. Israël affirme avoir riposté après une attaque de drones du Hezbollah contre ses soldats. Le Liban, où les dégâts de la guerre sont aussi environnementaux. Les autorités libanaises accusent Israël d'incendier parfois délibérément des terres agricoles et des forêts dans le sud du pays. Plus de 16 000 hectares ont brûlé depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah en octobre 2023. Les détails, Nadia Bencher.
des champs noircis, des vergers détruits et des forêts ravagées. Dans le sud du Liban, les incendies se multiplient, notamment dans les secteurs où l'armée israélienne est déployée. Rien qu'au mois d'août, des dizaines de feux ont touché plusieurs localités, parmi lesquelles Houla, Maïs al-Jabal et Wadi Slouki. Selon les autorités libanaises, plus de 16 000 hectares ont brûlé depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah en octobre 2023. La défense civil de Nabatieh attribue ces incendies à des frappes israéliennes, des drones, mais aussi à l'utilisation de bombes au phosphore et de bombes à sous-munitions. Des responsables libanais, des ONG, des habitants accusent Israël de mener une politique de la terre brûlée destinée à éloigner les combattants du Hezbollah de la frontière. Le Conseil national de la recherche scientifique libanais affirme de son côté que ces destructions sont systématiques et s'appuie notamment sur des images satellitaires montrant la disparition de vergers et de forêts. Les dégâts concernent aussi des plantations anciennes. Dans le village de Zawtar al-Sharqiyeh, 600 oliviers ont été déracinés en août, selon l'agence officielle libanaise ANI. La ministre libanaise de l'Environnement dénonce, elle, un écocide dans le sud du pays.
Le chef de la diplomatie iranienne a rencontré jeudi à Téhéran son homologue qatari pour s'entretenir sur la question du détroit stratégique d'Hormuz et faire avancer la solution diplomatique à l'heure où Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre l'économie iranienne. Et dans le reste de l'actualité internationale, les secours ont extrait les corps d'au moins 362 victimes de la gigantesque mer de boue qui a dévasté la frontière du Népal et de la Chine et poursuivent leur effort pour tenter de retrouver plus de 1400 personnes encore portées disparues, parmi lesquelles on dénombre 4 Français. En Tunisie, la contestation populaire gronde face aux coupures d'électricité et aux pénuries d'eau potable. Des manifestations ont été organisées ces dernières semaines à travers le pays, dans un contexte marqué par un durcissement autoritaire depuis le coup d'État du président Kais Saïd en 2021. On écoute le chercheur Pierre Vermeeren sur la situation en Tunisie.
Depuis plusieurs mois, il fait très très chaud. Ce mercredi, par exemple, vous avez encore 45 degrés à Tunis et presque dans l'ensemble du pays, un peu plus au sud même. Dans ce contexte-là, vous avez à la fois de manière alternative, depuis juillet, des pénuries ou des coupures d'eau et d'électricité. Électricité, ça veut dire la clim. Et l'eau, c'est à la fois au robinet une eau un peu saumâtre, ou bien des pénuries de bouteilles d'eau. C'est-à-dire que ce sont des biens, si vous voulez, vitaux, fondamentaux, qui viennent à manquer. Des services vitaux comme l'électricité. Et donc, évidemment, je crois que dans n'importe quel pays au monde, dans ces conditions-là, il y aurait des manifestations.
Suite aux contestations qui ont eu lieu à Tunis la semaine dernière, certaines figures de l'opposition ont réagi, comme Ezzedine Azghi, qui affirme qu'il n'y a plus d'État, plus d'institutions en Tunisie, juste un homme qui ignore tout et qui dirige le pays, une référence au président Kais Saïd. Est-ce que l'opposition s'est structurée les dernières années face au glissement autoritaire du président Kais Saïd ?
Bah, écoutez, de mémoire, en juillet, au moment de l'anniversaire du coup d'État de 2021, il y a eu quelques milliers de personnes qui ont manifesté, notamment à Tunis, à l'appel des mouvements d'opposition. Mais il faut quand même rappeler que les mouvements d'opposition ont pratiquement tous leur chef en prison. Ça concerne évidemment les islamistes, mais pas seulement. Ça concerne aussi le parti nationaliste, ça concerne des partis ou des syndicalistes de gauche. Qu'il y a aussi des journalistes ou des intellectuels qui ont eu des problèmes, que la presse et les médias sont contrôlés, que les institutions, suite à la dernière constitution, sont entièrement, effectivement, aux mains ou aux ordres de la présidence de la République. Donc on est dans une situation très particulière. Pour un pays qui avait été habitué à vivre dans une situation certes difficile, mais néanmoins démocratique au cours de la dernière décennie, c'est évidemment une forme de retour en arrière assez compliquée à gérer.
Pierre Vermeeren, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sera l'invité de Grand Angle demain après le flash de 18h. L'ancien commandant militaire des Serbes de Bosnie et criminel de guerre Ratko Mladić est décédé dans un hôpital pénitentiaire de La Haye. Âgé de 84 ans, il avait été surnommé le boucher de Bosnie en raison de son rôle dans le massacre de Srebrenica en 1995 pendant la guerre de Bosnie. En France, premier débat de la présidentielle. 7 candidats à l'élection de 2027 sont conviés à un échange cet après-midi en clôture de l'université d'été du MEDEF. L'organisation patronale entend ainsi imposer ses thèmes dans la campagne. Il ne sera pas présent à cette rencontre avec les grands patrons, mais Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a aujourd'hui annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Une candidature de plus dans le camp de droite. Le député insoumis Sébastien Delogu a été passé en garde à vue jeudi selon le parquet de Marseille après son altercation avec 3 policiers venus l'interpeller un suspect dans l'immeuble où il réside. Et puis les orages vont continuer de s'abattre sur une partie de la France ce jeudi avec des grêlons, des éclairs et de fortes pluies attendues dans les départements concernés. La Corse fait-elle face à des températures caniculaires ? C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.